Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui à Crépy-en-Valois, au musée de l'Archerie, car depuis le 1er juin, il y a une exposition intitulée « Sacré bestiaire ». Et je suis avec Marie, donc qui travaille au musée de l'Archerie. Marie, vous allez déjà nous donner quelques informations sur ce musée de l'Archerie.
Alors, le musée de l'Archerie du Valois, il se trouve à Crépy-en-Valois. Il a deux collections principales, une dédiée au tir à l'arc, c'est la plus grande collection d'Europe dédiée à cette thématique, et puis une collection d'art sacré qui est constituée principalement de dépôts de communes, donc principalement de sculptures, qui étaient autrefois dans les églises et qui ont été mis en sécurité, en dépôt au musée. Et donc ça, c'est toute la partie art sacré. Et c'est dans les salles d'art sacré que l'exposition Sacré Bestiaire se tient, puisque c'est une exposition qui s'attache à la place de l'animal dans l'iconographie sacrée, donc dans les arts catholiques. Cette collection d'art sacré, elle était principalement constituée dans les années 70. Et elle a quasiment pas bougé depuis. Enfin, voilà, c'est très léger.
Parlez-nous donc de cette exposition Sacré Bestiaire.
Alors cette exposition, elle est née du constat qu'on avait beaucoup de sculptures dans nos collections qui intégraient une figure animale. Et donc on a voulu s'intéresser à qu'est-ce que ça signifiait dans l'iconographie chrétienne, pourquoi on représentait des animaux et à quoi ils servaient. Enfin voilà, il y a différents exemples. Et donc dans cette exposition, on a décidé de traiter cette figure de l'animal comme une figure littéraire. Et donc de chercher la source de ces représentations dans la Bible et d'essayer de comprendre voilà, comment du texte on était passé à l'image et quel était le rôle qu'on pouvait donner à chacun de ces animaux. Par exemple, vous avez des animaux messagers, donc la colombe par exemple, qui indique un miracle, voilà, un sacrement, enfin quelque chose d'important qui se passe dans le domaine du sacré. Vous avez des animaux attributs, certains saints sont systématiquement représentés avec un animal qui a une importance dans leur légende et ça permet de les reconnaître. Par exemple, Saint-Martin est sur son cheval, Saint-Roch est souvent avec son chien. Enfin, c'est pas le sien, mais c'est un chien qui a permis de le sauver alors qu'il était très malade. Donc ça, c'est des éléments qui permettent aux croyants d'identifier le personnage qui est représenté, sans même qu'il y ait un texte à côté qui dise « c'est Saint-Roch », etc. Donc à une époque où beaucoup de personnes ne savaient pas lire, notamment au Moyen-Âge, c'était quelque chose de très important de figurer les animaux. Ça permettait voilà, de donner un attribut et de pouvoir reconnaître les saints.
Et les pièces donc, de cette exposition étaient déjà au musée ? C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas fait venir des pièces de l'extérieur ?
Alors, tout est parti des collections du musée, la réflexion initiale, mais on a emprunté à beaucoup de musées environnants ou de communes. On s'est concentré sur des musées, des collections régionales, pour diverses raisons. Déjà, la région est très riche en patrimoine. Et puis, d'un point de vue pratique et financier, c'était plus simple aussi de se limiter à ce rayon-là.
Des transports aussi.
Voilà. Il y en a des œuvres qui viennent de Senlis, de l'abbaye de Chaly, de Laon, Saint-Omer, Noyon, la commune de Francastel nous a aussi prêté une œuvre. Donc j'en oublie peut-être, mais voilà, on est vraiment que dans les Hauts-de-France. Et ça permet voilà, d'enrichir nos propres collections qui étaient principalement constituées de sculptures par des gravures, par d'autres supports et des iconographies des saints qu'on n'avait pas dans nos collections.
Comment vient la genèse d'une exposition donc, au sein du musée de l'Archerie ? Vous réfléchissez à une thématique en particulier, en fait, il y a une analyse de l'existant et vous dites, tiens, comme en l'occurrence Sacré Bestiaire, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Comment ça vient, en fait, l'idée d'une exposition ?
Alors, on s'est mis une contrainte, vu qu'on a deux collections principales importantes et qu'on fait qu'une seule grosse exposition par an, on alterne chaque année entre une exposition liée à l'archerie et une exposition liée à l'art sacré. Donc cette année, on avait décidé que ce serait une exposition d'art sacré, ce qui allait un peu à l'encontre de la dynamique générale en France qui est globalement ne produit actuellement que des expositions sur le sport. Donc on aurait bien pu faire le sport olympique.
C'est pas enfin, mal d'être dans un contraste aussi.
Voilà, on a voulu contraster. Donc on prête beaucoup d'objets pour d'autres expositions sur le sport et l'olympisme grâce à nos collections d'archerie. Mais nous, on s'est concentré sur l'art sacré. Et donc effectivement, on a une petite liste d'idées qui
émerge
et qui est en cours et qui est alimentée régulièrement. Et puis, jusqu'au moment où l'idée devient un titre, enfin, un vrai sujet. Et là, on fait le constat de ce qu'on a vraiment dans nos collections. Et on lance un appel, grâce au réseau professionnel des musées, aux collègues, pour présenter notre exposition, notre sujet. Voilà, on a pensé faire ça pour l'année prochaine.
Qu'est-ce que vous avez
qui pourrait la nourrir ? Et puis on met des idées un peu plus précises, notamment il nous manque pas des dragons, il nous manque certains épisodes qu'on n'a pas du tout dans nos propres collections, et pour autant ce serait intéressant de les aborder. Est-ce que vous avez des choses ? Et donc généralement, les collègues, en tout cas dans Hauts-de-France, sont très bienveillants et très réactifs. Et donc après, on fait nos courses dans les choix
c'est
qui sont proposés.
C'est des prêts, évidemment.
C'est des prêts gratuits entre institutions, puisque nous, on fait la même chose en retour quand on nous demande. Et donc là, se construit le propos. Donc les idées, on les avait déjà, mais c'est vrai que ça nous permet de mettre en lumière certains exemples par rapport à d'autres. Et donc, ça se construit comme ça. On valide les prêts auprès des partenaires. Et puis voilà, ça met plusieurs mois à se construire, mais c'est une belle aventure qui aboutit à une exposition, à une publication, là, pour le coup. Catalogue qui vient enrichir aussi le propos de l'exposition, qui complète.
Il y a combien de personnes au musée qui s'occupent d'organiser ces expositions annuelles ?
Alors, en amont, on était particulièrement trois à travailler dessus. La directrice, moi-même qui suis responsable des collections, et la responsable du récollement, mais qui avait particulièrement en charge tout ce qui était le suivi administratif justement des prêts, puisque certes c'est gratuit, mais il faut que tout soit formalisé. Et après, au moment où ça devient plus concret, on va chercher les œuvres, elles sont en nos murs et on monte l'exposition. Là, tout le monde est mis à profit. Donc c'est une exposition qui prend place au sein du parcours permanent. Et donc il faut que les gens puissent savoir quelle œuvre fait partie du parcours permanent et quelle œuvre fait partie de l'exposition.
Vous allez nous montrer.
Donc on a symbolisé.
Vous mettez un encart, un cartel sacré bestiaire en dessous l'œuvre qui fait partie de l'exposition.
C'est ça. Alors les cartels sont un peu différents, de couleurs différentes qui sont les couleurs de l'exposition. Et en plus, effectivement, on a mis des bandeaux signalétiques, que ce soit sur les cimaises, donc les murs sur lesquels on accroche les œuvres, que ce soit sur les socles, les vitrines, voilà, pour bien indiquer aux visiteurs, cette vitrine, elle fait partie de l'exposition, celle-ci, il n'y a rien dessus, donc c'est le parcours permanent. Donc il faut que le visiteur soit vigilant, mais on a essayé d'être le plus clair possible en intégrant cette contrainte.
Quel est le public de Sacré Bestiaire ?
Alors, pour le moment, on a moins d'une semaine d'ouverture, mais généralement, c'est assez varié.
Les scolaires qui viennent ?
Alors, les scolaires n'ont pas de visite pour le moment particulière de l'exposition. Probablement, à partir de la rentrée, ce sera fait. Là, toutes les sorties qui sont prévues, c'est plutôt du parcours permanent qui est mis en avant. Après, on a des visiteurs locaux. Les Crépinois qui donc reviennent
il y a des
à chaque
j'imagine.
Des familiers, des habitués qui reviennent à chaque fois qu'il y a une nouvelle exposition, et puis ceux qui viennent d'un peu plus loin que le sujet attire particulièrement. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait des retours très positifs sur l'affiche et qui ont été appâtés et qui nous ont dit que ils voulaient vraiment venir. Donc ça sera pour eux probablement une première visite, une découverte du musée.
Est-ce qu'il y a une pièce dont vous avez envie de me parler, donc de cette exposition qui vous parle tout particulièrement ?
Alors dans les œuvres qu'on a en printé, j'aime bien les... Il y a deux crosses d'abbé.
Des
crosses d'abbé. Donc vous voyez, l'abbé, il a une sorte de sceptre qui lui permet de l'identifier. Et au sommet de ce sceptre, il y a une crosse, donc ça fait une sorte de volute. Et donc il y en a deux dans l'exposition.
C'est un dragon, là.
Là, exactement. Dans la première vitrine, on a un dragon ou un serpent qui mord une pomme, donc en référence à la Genèse.
Oui.
Et donc les deux crosses qu'on a exposées là ont été retrouvées dans le cœur de l'abbaye de Chaly. Et la légende dit qu'elles ont été fortuitement découvertes par un jardinier et qu'en fait ça a permis de se dire qu'il y avait probablement d'autres choses en dessous.
Et ils ont creusé,
ils ont fait des fouilles officielles à partir de là, menées par des archéologues, et ils ont découvert les 12 tombeaux d'évêques qui étaient enterrés dans le chœur. Et donc celle de Senlis, qui est exposée là dans cette première vitrine, elle a été attribuée au chancelier Guérin, qui est donc un des évêques de l'abbaye. Donc c'est assez intéressant comme histoire, je trouve, à raconter. Et pour ce qui est de l'iconographie, ce qui est intéressant, c'est que c'est un animal qu'on associe plus au mal, serpent ou dragon. Et pourtant, ils sont représentés sur un des attributs de l'évêque, qui est un des plus hauts représentants de l'Église. Ça montre bien l'ambivalence de certains animaux, notamment le serpent, qui est à la fois le tentateur, mais qui est aussi celui qui a donné la connaissance et voilà, qui a cette sagesse.
Le côté positif.
Le côté positif, voilà. Tout n'est pas négatif.
Est-ce que vous avez envie de me parler d'une autre pièce de cette exposition ou d'un animal que vous aimez tout particulièrement ?
Je veux bien vous parler du pélican. C'est dans la salle d'après.
Il y a deux salles.
Trois même.
Trois salles.
Donc là, on est dans une petite salle intermédiaire où on a décidé de présenter des vêtements liturgiques et de l'orfèvrerie. Et sur ces œuvres, il y a deux iconographies. Il y a celle de l'agneau qui est extrêmement importante dans l'exposition et une chape avec un pélican. Et ce pélican est représenté à l'arrière de la chape. Alors, il est richement brodé. Et si on regarde précisément, on voit que le pélican a les ailes ouvertes et la tête penchée sur sa poitrine. Et en fait, il s'ouvre la poitrine.
Il est en train de se blesser.
Voilà, il se blesse. Et en fait, à ses pattes, il y a trois petits oisillons. L'histoire raconte que le pélican, un couple de pélicans qui avait trois petits oisillons, et ces derniers étaient vraiment prenants et ils embêtaient énormément leurs parents, au point que les parents ont craqué et puis les ont tués. Et pris de remords, au bout de trois jours, et se sont dit, c'est pas possible.
On a tué nos enfants.
Enfin, prise de conscience un peu tardive, mais voilà, prise de conscience quand même. Et se sont ouverts le poitrail. Et en fait, le sang qui est coulé a ressuscité les oisillons.
Wow.
Et donc, c'est une référence, puisqu'au bout de trois jours, à la résurrection, au Christ, au sacrifice. Et voilà, c'est assez intéressant comme image, parce que voilà, jusqu'à l'exposition, j'avais pas vraiment conscience que le pélican était un animal lié à l'iconographie chrétienne. Et voilà, c'était assez chouette.
Ok, merci pour ces explications. Et du coup, ça me donne envie de vous poser la question. Vous faites des visites guidées de cette exposition, parce que c'est intéressant ce que vous nous racontez là.
Alors, il y a une visite guidée par moi. Mes collègues de la médiation ont aussi préparé des visites spéciales enfants, donc visites en compte. Il y a des conférences. Les conférences, alors, on les organise chaque année, mais là, elles sont spécialement orientées sur la thématique des animaux. Et au mois de juin, c'est les dragons. Et puis, on a des ateliers créatifs en lien avec la thématique. Donc voilà, il y a plein d'occasions de venir découvrir de manière assez diversifiée cette visite, voilà, que ce soit en autonomie, en visite guidée ou par un autre biais.
Et on trouve les informations sur le site du musée de l'Archerie, j'imagine.
Tout à fait, sur le site du musée, sur notre page Facebook, notre Instagram. Au musée directement, on a des flyers et dans tous les commerces de Crépy.
Merci beaucoup Marie.
De rien, à bientôt.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais au musée de l'Archerie et du Valois, à Crépy-en-Valois, pour l'exposition Sacré Bestiaire, qui se tient du 1er juin au 11 novembre. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.